Bonjour tout le monde, Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 5 octobre 2016, il est 14h04, émission numéro 106, Christophe Rollin seul au micro, Isa n'est pas là, Gérald non plus n'est pas là, et notre invité n'est pas là, si, il est là. On va l'appeler, c'est par téléphone, il s'agit de Jean-Pierre Siméon, grande figure de la poésie française, responsable notamment du Printemps des Poètes, et puis, pour ce qui est de Lyon en particulier, il est très présent au TNP, à Villeurbanne, au Théâtre National Populaire, pour différentes choses, différentes activités qu'il mène. Et par exemple, ces jours-ci, ça a commencé hier, le mardi 4 octobre, il y a jusqu'à la fin octobre, deux pièces de Sophocle qu'il a réécrite, dirigée par la troupe du TNP, elle s'est mise en scène par Christian Schiaretti, nous parlerons de lui. Donc voilà, on va l'avoir par téléphone dans quelques instants pour nous parler de différentes précisions sur ses pièces, ce qu'elles sont, de quoi elles parlent, comment il a procédé pour les écrire. Bref, nous allons voir cela, ou bien entendu, nous allons plutôt l'entendre avec lui par téléphone d'ici quelques instants. Pour commencer, un concert a lieu cette semaine. Première date demain, jeudi 6, deuxième samedi 8. De quoi s'agit-il ? 20h les jeudis et 18h les samedis. Il s'agit de l'Auditorium, un gros concert cette semaine. Voilà, la rentrée se poursuit, même la rentrée même terminée à l'Auditorium. Un grand concert avec notamment la 5e symphonie de Beethoven. Je vous propose d'écouter le premier mouvement. Voilà, parce que c'est bien, ça claque en ce début d'émission. Et puis surtout, le temps de caler la technique pour bien avoir Jean-Pierre Siméon au téléphone. D'ici très vite. Écoutons donc ce premier mouvement, l'Allegro con brio de cette 5e symphonie en ut mineur von Karajan. C'est un autre orchestre, ce sera l'Orchestre National de Lyon ce jeudi 6 et samedi 8, 20h jeudi, 18h samedi, et ce sera le chef Gabor Takacs-Nagy, chef hongrois qui dirigera l'Orchestre National de Lyon. Voilà, pour l'instant, eh bien, écoutons ce que c'est et puis continuons avec Jean-Pierre Siméon par téléphone. Vous êtes sur très bien, vous êtes sur Radio Canu, c'est le 102.2 de la bande FM, ou bien vous nous écoutez également sur internet radiocanu.org. Et cela continue. Ça continue encore à peu près, allez, combien de minutes ? Environ 3 minutes. Il s'agit de la première partie de la symphonie numéro 5. C'était le premier mouvement. Ce concert est donc donné jeudi 6, demain, ainsi que samedi 8 octobre à l'Auditorium par l'Orchestre National de Lyon. Mais pour l'instant, l'actualité, c'est Jean-Pierre Siméon, dramaturge, je ne sais quel mot employer, on va voir cela avec lui, auteur de deux pièces qui sont données du mardi 4 au samedi 15 octobre. Il s'agit d'Electre, et puis ensuite il y aura Antigone, donnée sur une deuxième partie, et puis même un peu plus tard, La Boîte. Mais ça, La Boîte, on l'évoquera ensuite, dans un deuxième temps. Jean-Pierre Siméon, bonjour, êtes-vous bien avec nous ?
Oui, je vous entends un peu loin là, mais je devine vos paroles.
Bon, bien, ben c'est très bien, c'est une bonne chose. Je vous lance cette sorte de question, voilà, nous en avons parlé hors antenne. Sophocle, l'auteur de cette pièce, Siméon, Jean-Pierre, c'est vous-même, et Schiaretti, à savoir Christian, le metteur en scène. Que pourriez-vous nous dire de ces trois noms, Sophocle, Siméon et Schiaretti, vous qui êtes dramaturge?
Oui, mais écoutez, je vais vous dire, après tout, c'est une histoire d'amitié. Vous savez, pour moi, Sophocle est un vieil ami, mais un ami que j'avais perdu de vue, et il se trouve qu'un autre ami qui l'a fréquenté depuis que j'avais perdu de vue, c'est Schiaretti, m'a permis de renouer avec ma vieille amitié avec Sophocle. Vous voyez, on pourrait dire comme ça, c'est une histoire d'amitié. Alors, mon amitié avec Christian, on va commencer par là, elle vient des années 90, quand il m'a invité à venir à la Comédie de Reims, dont il était le directeur à l'époque. Il voulait un poète dans son théâtre pour faire ce que peut faire un poète dans un théâtre, c'est-à-dire parler de poésie, lire des poèmes, faire lire des poèmes aux autres, parler de ce qu'il aime, et puis apporter au théâtre la langue poétique. Voilà. Et alors, à ce moment-là, j'ai commencé à écrire pour le théâtre, en poète, n'est-ce pas ? Et il se trouve que, dans notre collaboration, on est arrivé au théâtre. Il y a maintenant pas mal d'années, n'est-ce pas ? Et il m'a demandé de le suivre au TNP. Et un jour, au TNP, je me rappelle qu'il m'a demandé d'écrire mon Philoctète. Et c'est cette pièce qui a été, vous savez, après jouée par Laurent Terzieff, fameux moment. Et donc, moi, la question qui m'avait été posée était très claire. Écris-moi ton Philoctète, s'il te plaît. Ou pas une suggestion, plus qu'une question d'ailleurs. Mais c'est enfin, en même temps, une question. Qu'est-ce que ça pourrait être mon Philoctète ? Peut-être sinon réécrire le Philoctète originel, celui de Sophocle, n'est-ce pas, de réécrire dans ma propre langue, de poète contemporain, voilà. Et donc on a inventé en fait une sorte de façon de faire, un peu comme ça, sans l'avoir théorisé, quelque chose qui est non pas, on l'a dit, une traduction, moi je ne lis pas le grec, donc je ne traduis pas Sophocle, ni une adaptation, parce qu'on ne transpose pas, on ne fait pas de grandes modifications en déplaçant les lieux, en déplaçant le temps, enfin, etc. Non, on a inventé ce qu'on appelle une variation. C'est-à-dire que, pour être très clair, je reprends effectivement le dessin de la pièce de Sophocle, je la suis dans ses motifs, dans sa structure, etc. Mais je réécris complètement dans cette langue poétique pour le théâtre que j'ai inventée du temps où je travaillais à Reims avec Schiaretti, qu'on avait d'abord mis en scène, si vous voulez, à travers un monologue qui s'appelle le Stabat Mater Furiosa, qui a eu un gros succès, qui continue à tourner beaucoup, à être joué à l'étranger, etc. Et donc, j'ai pensé à ce moment-là que cette langue, qui est ma langue poétique pour le théâtre, avait peut-être une efficacité, comme on dit, elle réussissait, elle résonnait dans le théâtre, et Christian le pensait aussi. Donc c'est pour ça qu'on a continué, comme il veut faire un travail de répertoire, vous le savez, on a continué avec Sophocle, et c'est comme ça qu'on en arrive à Electre et à Antigone.
J'ai tout compris. Allô, oui. Oui, excusez-moi, j'ai absolument tout compris. Mais alors, essayons d'être très précis. Par exemple, je pense à cette phrase qui m'a beaucoup marqué. J'étais présent hier au spectacle. Je pense à cette phrase indiquée à la fin. Zut, serait-ce un spoiler ? Est-ce qu'on va gâcher aux auditeurs le plaisir d'aller voir la pièce ? Non, pas du tout. On se doute que ça se termine un peu mal, cette pièce Electre. Je pense à cette phrase que j'ai en tête, cette réplique prononcée par, je crois que c'est le chœur. Le père mort revit par le geste qui tue. Donc, ces mots ne sont pas des mots de Sophocle, ce sont des mots que vous avez tout à fait créés, c'est ça ? Enfin, écrits, inventés ?
Alors, écoutez, je repars assez mal. Hein. Je pense que vous parlez du problème de ce qui est inventé, de ce qui reste de Sophocle, quelque chose comme ça, non ?
Voilà, éventuellement, j'étais sur cette réplique même qui était « Le père mort revit par le geste qui tue ».
Oui.
D'où viennent-ils ces mots ?
Oui, non, mais ça, c'est moi qui l'invente, évidemment. Mais si vous voulez, l'idée de cette succession de crimes et cet engendrement des crimes, elle est dans Sophocle. C'est ma manière à moi de le dire dans une langue. Évidemment, ça, c'est pas dans Sophocle littéralement, si vous voulez. Hein, on est au cœur du problème, c'est-à-dire comment j'invente à ma manière ce qui est dit, je le réinvente. Vous savez, le déplacement dans une autre langue est important. C'est-à-dire qu'on passe non pas d'une langue dans une autre, en fait. On passe d'une poésie à une autre. Et la poésie que j'écris, évidemment, elle est dans le registre d'aujourd'hui, le lexique, le rythme. C'est important, le rythme, le son de la langue d'aujourd'hui. Donc ça déplace beaucoup les choses. Mais en même temps, tout en les déplaçant et en faisant entendre peut-être des vérités qui, moi, me tiennent à cœur, en même temps, je les prends toujours, je suis assez fidèle, je pense, aux enjeux de premiers que Sophocle met à jour. Ceci dit, ces enjeux sont toujours très contemporains, c'est pour ça qu'on continuera toujours à jouer Sophocle. Ils sont pas contemporains, ils sont universels, ils sont intemporels. Donc à chaque fois que je reprends les motifs de Sophocle, je risque pas d'être dans un anachronisme. Mais je pense qu'en les transformant dans ma langue, en les transposant dans ma langue, je les fais entendre, en tout cas avec une résonance qui est plus directement celle qu'on peut entendre aujourd'hui.
Très, très, très bien, très bien. Vous êtes très précis. Vous évoquez toute cette chose-là. J'ai peut-être quand même une ultime chose à vous demander. Quel plaisir vous-même vous trouvez à faire cela. C'est vous parliez, enfin, ou alors j'ai lu quelque part le terme d'orgasme. Je crois que c'est vous qui l'aviez pour la conclusion de cette pièce, conclusion tragique. Est-ce que le plaisir que vous éprouvez est à ce point est également important, enfin, dans l'écriture, et puis également, il faudrait que je vous demande ce que vous pensez du travail que Christian Sciarretti mène avec sa troupe, avec ses comédiens.
Oui, alors il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Oui, quand je parlais de l'orgasme à propos de la pièce, c'était à propos de la tension, cette sorte de tension qu'il y a comme ça, qui est une sorte d'orgasme sanglant à la fin, voilà, une tension du désir aussi. Mais enfin, si on parle de l'écriture, et là je ne vais pas employer ces termes-là, mais quand même, moi j'ai une vraie jubilation à écrire. Moi c'est ma passion d'essayer de faire apparaître à travers la langue, à travers les rythmes, et d'inventer une langue d'ailleurs qui me soit propre et qui touche les gens. C'est un plaisir d'inventer, d'essayer de trouver cette sonorité, je ne sais pas comment dire. Moi, d'abord, l'univers de Sophocle m'est très proche, et comme il pense, il est très proche de nous tous, parce qu'il est au plus profond des grandes questions de la mort, de la trahison, de la jalousie, de l'amour perdu, de l'amour impossible, etc. Ce sont des questions formidables, quand même, non, pour nous tous. Et donc, moi, j'ai un vrai plaisir à essayer de trouver la langue qui fera résonner ces questions chez chacun. Et l'un des plus grands plaisirs, c'est quand les comédiens me disent le plaisir, justement, la jouissance qu'ils ont à lire cette langue, à la dire, vous voyez, parce qu'elle est franchement poétique, je l'assume comme ça, mais je veux que ce soit une poésie concrète, pas une poésie qui se pare, vous savez, cérémonieusement du nom de poésie, mais qui soit ce qu'est la poésie dans la langue, c'est-à-dire un remuement, c'est-à-dire une surprise tout le temps, c'est-à-dire un chant aussi dans la langue. Voilà. Et alors, pour ça, vous parliez de ma relation avec Christian et de son travail. Évidemment, moi, je suis en complète affinité, complicité avec Christian, on se connaît parfaitement, il connaît parfaitement ma langue, mais surtout ce que j'aime profondément, ce à quoi j'adhère profondément, c'est ses parties pris au théâtre. Vous savez, l'essentiel qu'il donne, la place essentielle qu'il donne justement au texte, à la langue, à la prosodie, à l'écoute du son inattendu de la langue perdue, parce qu'elle est perdue pour nous tous, puisqu'on parle une langue basse, souvent une langue efficace, rapide, mais désinvolte. Or, cette langue plus pleine et riche de nuances, on nous la restitue. Et Christian sait magnifiquement faire ça. Et il le fait avec cet esprit que j'aime beaucoup au théâtre, qui est le sien très particulièrement, c'est l'esprit d'enfance. Il y a toujours un jeu derrière, un sourire derrière. Regardez comment il monte Électre et Antigone. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, on est dans une salle de classe, on part du livre et tout d'un coup, petit à petit, en quelque peu de temps d'ailleurs, la chose prend et tout le monde voit ce que dit le texte et qui n'est pas montré. Il n'y a pas d'effet de décor, de grands effets de lumière, comme on voit trop sur les théâtres aujourd'hui. Non, tout est dans l'apparition, comme ça, par le poème, de toutes les images qui sont incluses dans le poème, qui dorment dans le poème, et tout d'un coup, la voix des comédiens éveille ces images, et nous, on y participe. Et ça, c'est un art très subtil. Vous savez, ça paraît rien. Bien sûr, c'est d'avoir une prise de risque. Ça paraît rien, comme ça, il ne fait pas d'effet, et tout d'un coup, tout le théâtre est là. La puissance d'émotion, de suggestion du théâtre est là. Voilà pourquoi j'adore sa façon de faire.
Bon. Eh bien, maintenant, quoi ? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi à présent que tu ne pèses même pas le poids d'un oiseau mort ? Où je te mets maintenant ? Dis donc, on fait ça, pardi, parce qu'on se dit que ça encombre moins le monde. Eh bien, moi, je dis bernique. Est-ce que vous savez de quoi je suis en train de parler, ce que je suis en train de lire, Jean-Pierre Siméon ?
Mais oui, voilà, c'est de la boîte dont on parle.
Exactement.
Oui, alors, la boîte, c'est encore une autre histoire. C'est une demande de Thierry Avassar, qui est un directeur musical d'un ensemble et qui voulait faire qui a déjà travaillé avec mes textes et qui travaille avec Scaretti aussi, qui a travaillé sur Brecht notamment, au TNP. Et donc Avassar voulait faire du théâtre musical. Il m'a demandé un monologue pour la comédienne Dominique Michel, et l'idée c'était de l'accompagner d'une composition musicale, avec musique, avec chant, etc. Et donc moi j'ai écrit un monologue, quoi, c'est-à-dire une histoire qui m'est venue comme ça. Enfin, la comédienne m'avait dit: je voudrais du grave et du drôle, je voudrais de la surprise et je voudrais de l'émotion et en même temps du cocasse. Voilà la demande, vous voyez. Alors moi je me dis, ça c'est on va trouver ça dans une boîte, si vous voulez. Et alors la boîte, cette chose mystérieuse qui est le point de départ, c'est cette boîte qu'elle tient dans la main, en fait, à qui elle parle au fond, mais en fait c'est dans la boîte de la mémoire qu'elle va chercher tout ce qu'elle a à dire. Et alors elle parle de son mari mort, supposé mort, et donc tout d'un coup, parce que là sur l'histoire de la mort du mari, il y a des complications qu'on pourra voir, en entendre et découvrir dans la pièce, mais donc tout d'un coup c'est tout son passé qui revient, et toute cette vie entière qui est la nôtre tous, faite de grandes joies, d'espérances, de déceptions, de petites mesquineries, etc. Et donc ça m'a permis, moi, d'écrire un monologue très, je crois, j'espère, très dynamique, où on passe d'un ton à l'autre sans arrêt. On peut être dans une pure poésie, lyrique, amoureuse, on peut être tout d'un coup dans le cocasse, dans le grotesque, dans le grinçant, dans la gravité, dans la réflexion sur la mort, et puis dans l'humour, voilà. Et je pense que Olivier Balazuc était l'homme qu'il fallait pour mettre ça en scène, parce que il maîtrise magnifiquement cette multiplicité de tons, ces contrastes, vous voyez. Alors j'espère que cette boîte, qui est une boîte de Pandore, elle réservera bien des surprises.
Ce sera dans la salle Jean Bouise du 2 au 10 novembre. Aucun point commun avec avec l'autre boîte que tient Oreste dans la pièce Électre, qui a commencé hier le 4 octobre, qui est donnée jusqu'au 15 octobre, et puis ensuite ce sera Antigone, disons plus ou moins en même temps, du 8
oui,
au 16
fait,
octobre.
Vous avez raison, je n'avais pas pensé. Et puis, il y a aussi une boîte dedans. Il y a peut-être des points communs, ça c'est aux spectateurs de les inventer. Non, mais je pense que on est quand même. Il y a un point commun entre toutes ces pièces, c'est la langue.
Ah, mais oui, bien entendu, et c'est vous, l'auteur, ouais. Jean-Pierre Siméon, plus que Sophocle, on pourrait peut-être dire.
Pardon ? Oui, enfin, pour ce qui est des pièces grecques, il y a toujours Sophocle et on l'a su, mais moi j'ai grande révérence envers mon ami Sophocle, dont je parlais, n'est-ce pas ? Mais effectivement, toujours, partout, ce qui fait le lien de tout ça, c'est cette langue que je crois avoir proposée, en tout cas originale, pour le théâtre, qui est, vous savez, j'essaye de résoudre cette contradiction. Comment on peut écrire une langue poétique aujourd'hui, comme d'autres l'ont fait avant moi, Musset, Claudel, Brecht, etc., une langue poétique qui encombre pas le plateau, qui gêne pas, qui soit ressentie comme poétique et donc qui crée un émerveillement, une surprise, et vous voyez, qui soit vraiment de la poésie sans être une poésie qui parade. Vous voyez ce que je veux dire ?
Je crois, et puis en fait, si je ne vois pas, je pourrais vous dire, seriez-vous libre peut-être aux alentours du mois de mars pour qu'on vous reçoive dans l'émission ? Quoique non, le mois de mars, vous devriez être occupé, Jean-Pierre Siméon.
Oui, je serais pas mal occupé, mais je ferai, je vais venir à Lyon une journée, ou une soirée en tout cas, pour le Printemps des Poètes à Lyon. On pourra peut-être se voir à ce moment-là, mais on peut peut-être trouver un moment où je viens vous voir au studio.
Voilà, c'est ça, je vous remercie d'avoir évoqué ce Printemps des Poètes, c'est deuxième quinzaine, je crois, il me semble.
C'est du 4, du 4 au 20 mars cette année.
La première, très bien. du 80 mars. Je crois que vous avez été vraiment complet. Et puis, de toute façon, j'invite les auditeurs à se rendre au TNP sur les dates que je vais encore donner. Peut-être, il y a une toute petite chose que je me dis. Serais-je éventuellement Fort Goujat et Cavalier, puisque vous acceptez les commandes de la part de Christian Schiaretti ou bien de la comédienne pour la boîte? Bah, écoutez, j'ai votre numéro de mobile, donc je crois que je vais le lancer à l'antenne. Comme ça, si les auditeurs souhaitent vous faire écrire une pièce, bah, ils n'ont qu'à prendre contact avec vous et ça marchera, non?
J'ai quand même beaucoup de sollicitations, bon. Malheureusement, j'adore ça, mais quand même, il y a une question de simplement de
temps.
De disponibilité.
Oui, non, de temps à gérer. Promis, je conserve votre numéro, je ne le transmettrai pas. Tout ce que je peux indiquer aux auditeurs, c'est que s'ils veulent, à défaut de passer commande d'une pièce écrite par vous, c'est au moins de voir celle que vous avez écrite. Il s'agit d'Electre dans un premier temps, qui a commencé, Antigone ensuite, à venir la semaine prochaine, à partir du mardi 8, et puis, c'est de ce samedi 8, à partir de ce samedi 8, et puis ensuite, un peu plus tard, au mois de novembre, je crois que ce sera le mardi 2 novembre, c'est la boîte qui commencera. Je pense qu'on a tout dit, je crois que vous avez un train à prendre, alors promis, je vous libère.
Oui.
Et puis nous réentendrons, reverrons à une occasion prochaine. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour ce temps que vous avez accordé.
Beaucoup.
Et
merci
puis
à vous.
Je souhaite du bon travail, merci encore.
Merci,
au revoir
Jean-Pierre. Au revoir.
Et donc maintenant, auditeurs, ce que nous allons faire, c'est entendre la fin de ce mouvement de la cinquième de Beethoven, puisque le concert est donné ce jeudi 6, demain, à 20h, ainsi que samedi 8, à 18h, c'est par l'Orchestre National de Lyon. Là, ce qu'on écoute, c'est du Herbert von Karajan, mais c'est quand même très bon. Il nous manquait la fin du mouvement, on reprend ça, et puis après, on poursuit avec d'autres annonces, vous allez voir. C'était fort. De quoi s'agissait-il? Eh bien, précisons avec le site lui-même de l'auditorium, deux notes, deux thèmes même, parmi les plus célèbres de toute l'histoire de la musique. Le début du concerto de Tchaïkovski, une mélodie irrésistible, des cordes accompagnées par le puissant martèlement du piano, et celui de la cinquième symphonie de Beethoven, quatre notes perçant le silence comme le destin frappe à la porte, et dont la répétition obstinée entraîne la symphonie entière dans un enchaînement d'événements implacables. Les deux œuvres portent le poids de la fatalité. Cet extrait, ce que je viens de lire à l'instant, du site de l'auditorium pour le concert à venir, c'est jeudi 6 octobre et samedi 8, jeudi à 20h, samedi 8 octobre à 18h. Programme riche, plusieurs compositeurs, trois, Bach, Tchaïkovski et Beethoven. De Bach seront donnés le contrepoint 19 de l'art de la fugue, orchestration par Luciano Berio, et ainsi que le Richard Carré de l'offrande musicale, orchestration cette fois-ci de Anton Webern, et puis de Tchaïkovski le concerto pour piano et orchestre numéro 1, et de Beethoven, forcément nous venons de l'entendre à l'instant, la 5e symphonie. Au piano sera le pianiste Bedson, se trouvera le pianiste Bedson Abdouraïmov, et puis la direction ne sera pas assurée par le chef prévu initialement, Dimas Lobodeniuk, un chef russe, sera plutôt Gabor Takacs-Nagy, un chef hongrois, natif de Budapest. Voilà, c'est à le concert à venir, concert de musique classique, très classique hein, ce début d'émission, puisque nous recevions par téléphone, hélas ce n'était pas... un invité présent dans le studio, c'est très regrettable, mais bon, nous avions par téléphone Jean-Pierre Siméon, auteur, comment le nommer, réhausseur même peut-être du texte des deux pièces Électre et Antigone. Pourquoi deuxième auteur? Puisque ces pièces ont été écrites initialement par Sophocle, 5e siècle, je crois, avant Jésus-Christ. Donc, Électre a déjà commencé le mardi 4, cela se poursuit jusqu'au samedi 15 octobre. C'est à 20h30 en soirée, pour une durée assez courte, 1h15, et puis en parallèle va commencer Antigone ce samedi 8 octobre jusqu'au dimanche 16 octobre. Ce sera pareil à 20h30 en soirée. Il y aura deux intégrales. Électre et Antigone seront données les samedis 8, bien ce samedi, ainsi que le 15 octobre. L'horaire, c'est un peu plus tôt. Je ne l'ai plus en tête. Je crois que c'est 18h15. Donc ces deux pièces font la part belle aux femmes, puisqu'elles sont très présentes. Dans la pièce Électre, c'est le personnage principal, forcément, Électre elle-même. Et puis, il y a aussi Chrysothémis qui est présente, il y a un chœur de femmes, elles sont donc nombreuses. Cela fait en tout quatre comédiennes présentes sur scène. Et puis, dans la pièce Antigone, que je n'ai pas encore vue, normalement, Antigone est présente sur scène. Il y a peut-être un peu plus d'acteurs, un peu plus de personnages masculins avec Créon, normalement, ainsi qu'Aimon, mais il devrait y avoir une nourrice. Si le texte de Sophocle est respecté, il devrait y avoir une nourrice. C'est vrai, il y aura aussi un messager, donc peut-être moins de femmes. Mais c'est bien, parce que d'autant plus que c'est une très bonne chose. Les comédiennes du TNP sont absolument excellentes. Je vous renvoie au compte-rendu qu'avait fait Goulven, publié sur le blog de Spectaculaire. C'est à peu près il y a tout pile un an, en octobre dernier, octobre 2015. Goulven avait fait un compte-rendu où il trouvait toutes les comédiennes, Elisabeth Makoko en tête, Juliette Rizou qu'il nommait aussi, et les autres, il les trouvait splendides, formidables. Et c'est effectivement le cas pour ce que j'ai vu hier. J'ai trouvé cette pièce Électre très bonne. Antigone, je ne l'ai pas encore vue, ça va venir. Et donc Jean-Pierre Siméon nous parlait de ces deux pièces et il évoquait aussi une pièce à venir un peu plus tard, du 2 au 10 novembre. Le point commun pourrait être certes l'auteur, c'est Jean-Pierre Siméon qui a écrit ces trois pièces, mais c'est aussi le lieu. C'est au TNP de Villeurbanne, mais ce n'est pas la salle principale, ce n'est pas la salle Roger Planchon, ce sera plutôt la salle qui s'appelle la salle de... la petite salle, la salle qui d'ailleurs ne se trouve pas au même endroit, c'est juste derrière, dans la petite rue, la salle Jean Bouise. Donc ces trois pièces seront données dans cette salle. Point commun également peut-être aussi pour Electre et la boîte, c'est cette fameuse boîte que nous évoquions à l'instant par téléphone. Donc voilà, ça fait trois pièces pour ce début de saison avec Jean-Pierre Siméon, c'est une très bonne chose. Les textes sont intéressants. Jean-Pierre Siméon, vous pourrez le retrouver si vous suivez un peu l'actualité générale. Au mois de mars, il vient de le dire à l'instant, du 4 au 20, pour le Printemps des Poètes. 19e édition peut-être, ou 20e, ou alors davantage, je ne sais plus. Mais cela fait quand même de nombreuses années que cette manifestation existe. Des interventions de poètes dans des milieux scolaires, certes, mais également des publications, des colloques, de différents rendez-vous, différentes choses. On pourra en reparler à ce moment-là. Pour l'instant, je crois avoir quand même dit beaucoup de choses pour cette première partie d'émission, du théâtre, de la musique classique aussi. Je vais peut-être dire un dernier mot d'une autre pièce qui a lieu actuellement. Il s'agit de la pièce Vera. Nous aurions pu nous aurions dû recevoir la semaine dernière ou aujourd'hui des comédiens, mais hélas, cela n'a pas pu se faire. Donc je vais en reparler, puisque j'ai pu la voir depuis la semaine dernière, j'ai pu voir cette pièce assez saisissante, écrite par Peter Zelenka, un écrivain dramaturge tchèque. La mise en scène est assurée par Élise Vigier et Martial Di Fonzobo. Martial Di Fonzobo est également comédien, il est acteur, il est présent sur la scène, accompagné de Karine Viard, dans le rôle principal, celui de Vera. Se trouve également à ses côtés Elena Noguera, Lou Valentini, Rodolfo De Souza, ainsi que Pierre Maillet. Il aurait été possible, enfin du moins il avait été envisagé de recevoir quelques-uns de ses acteurs, ça n'a pas pu se faire, c'est très regrettable. Pierre Maillet, dommage, Karine Viard, ah zut, Elena Noguera, ça aurait été une très bonne chose, Martial certes aussi. Donc cela ne se fait pas, c'est dommage. De toute façon, quoi qu'il en soit, si vous souhaitez au moins, à défaut de les entendre, si vous souhaitez voir ces comédiens, allez donc voir cette pièce qui se poursuit. Elle continue encore ce soir, demain, vendredi, ainsi que samedi 8 octobre, même samedi il y a deux horaires. Certes, l'horaire habituel de 20h, mais il y a également 16h dans l'après-midi. Donc c'est une bonne chose, ça fait encore plusieurs occasions d'aller voir cette pièce qui ça n'a rien à voir avec Électre et Antigone. Et encore, c'est une nouvelle fois un portrait de femme. Il s'agit de Vera. Je lis quelques lignes que je trouve dans la brochure des Célestins. Cette pièce est une fable moderne et décapante sur le monde du travail. Vera, la pièce, révèle avec une habileté glaçante la déliquescence d'un système vorace qui, arrivé à son apogée, n'aura d'autre issue que sa propre fin. La fin est assez bonne, la fin est assez drôle, une sorte de pirouette qui est amusante. Voilà, cette pièce, elle est également publiée au Solitaire Intempestif. D'ailleurs aussi maison d'édition de Jean-Pierre Siméon. Donc si vous souhaitez en lire le texte, eh bien vous pouvez le faire. Promis, j'avais dit que je le ferais, je crois la semaine dernière, mais je vais le faire là peut-être dans l'après-midi, et je vais rendre petites histoires de la folie ordinaire, une autre pièce de Peter Zelenka qui est assez tarée, quoi. C'est bien starbé, c'est bien barré, mais c'est drôle, il y a beaucoup d'humour et c'est grinçant, amusant, je ne sais pas comment qualifier. Allez donc emprunter ce livre à la Bibliothèque Municipale de Lyon, ça pourrait être une bonne lecture. Mais la pièce n'est pas donnée. Il reste encore un paquet de minutes, mais auditeurs, je ne pense pas aller jusqu'à 15h. Tant pis, vous resterez avec les bandes continues, d'autant plus que Pascal non plus ne devrait pas être là pour le blues des canuts. Donc tant pis. Mais pour l'instant, allez, petite pause musicale. Écoutons un autre concert à venir le mercredi 12 octobre de la semaine prochaine. Les variations Goldberg seront interprétées par la pianiste Zhu Chao Mei. Ce sera à la salle Molière à 20h30. Je vais en donner d'autres précisions, mais ce qui est toujours très bien quand on parle de musique, c'est d'en écouter. Alors les variations Goldberg, on connaît certainement, je pense, le premier thème, qui est notamment un générique d'une émission assez ancienne sur France Culture, les scènes du matin à 9h. Écoutons une variation. Clin d'œil que je fais. Écoutons celle-ci, la troisième variation. Et puis après, nous pourrons reprendre en musique et en parole, toujours dans Spectaculaire, toujours sur Radio Canu. Et puis c'est très bien. Ah zut, non, on repart sur le générique, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire, moi je voulais bien écouter Zhu Chao Mei, on va réussir, vous allez voir, on a toujours des problèmes techniques, tout se met en place, vous avez droit à absolument tous les bruitages qu'il faut. Écoutons donc la variation numéro 3 des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, interprétée, là pour le coup le CD est de la pianiste elle-même, Zhu Chao Mei, qui sera sur scène le mercredi 12 octobre à la salle Molière pour ce concert. Thank you. C'était donc un extrait très bref. Peut-être que tout à l'heure on pourrait écouter la première, non pas variation, mais l'aria qui donne l'aria qui est le thème principal de toutes ces variations Goldberg. Mais pour l'instant, restons-en à ce petit clin d'œil. C'était un générique à une époque aussi, non pas celui de France Culture dont je parlais, mais un autre générique sur une autre station. Parlons-en une seconde, il s'agissait de Radio Trade Union. Voilà, je faisais un clin d'œil à une autre émission qu'animait un certain René Friard. Ce concert est donc donné, les variations Goldberg, opus 988 de Jean-Sébastien Bach. C'est donné à 20h30 la semaine prochaine par cette pianiste que nous écoutions à la seconde, à l'instant. C'était un CD qu'elle a elle-même enregistré. La pianiste Zhu Xiaomei, c'est à 20h30, donc dans cette salle Molière. Ça fait quoi, la 10e fois peut-être que je le dis, dans le 5e arrondissement, non loin de la gare Saint-Paul. Une petite citation que je tire du site Fortissimo Musique, puisque ce concert est donné dans le cadre de la saison de cette institution Fortissimo Musique. Je lis Le Monde qui qualifie Zhu Xiaomei. Xiaomei peut tutoyer les chefs-d'œuvre. Elle joue avec une distinction gourmande et lucide. Si vous souhaitez vous en rendre compte, eh bien, allez donc sur le site pour réserver vos places mercredi 12 octobre, soit la semaine prochaine à 20h30 dans cette salle Molière. Il y a encore d'autres choses à venir. J'ai fait le tour, on a parlé du théâtre, on a parlé de musique. Ah, si, peut-être encore un peu de musique. Il manquait une scène, c'est la scène de l'opéra sur laquelle va commencer la semaine prochaine, mardi prochain. Mardi 11 octobre jusqu'au 23 commence un opéra, L'Ange de Feu, un opéra de Sergueï Prokofiev qui est donc donné, dirigé par Kazushi Ono, mise en scène de Benedict Matthews. Qu'en dire ? Je ne saurais, moi, beaucoup vous en parler, puisque je ne me suis pas intéressé tant que ça. Peut-être que Gérald s'y rendra ou un autre chroniqueur musical qui pourra nous en parler. Ce que je sais, c'est que c'est un opéra qui dure 2 heures, et puis c'est une histoire d'amour, et puis c'est de la musique de Prokofiev. Généralement, c'est agréable, enfin, ça fonctionne. Ce n'est pas quelque chose d'ultra moderne, et ce n'est pas non plus trop ancien. Ce que je peux faire, c'est que j'ai entre les mains une petite brochure, une sorte de un petit journal, une suite de l'opération lancée l'année dernière, Opéra de Lyon, des opéras et des bulles, histoire d'opéra illustrée. Ce sont des sortes de bandes dessinées, plus ou moins, je ne sais pas comment dire, des mises en images des opéras qui sont données à l'Opéra de Lyon, et si je peux vous préciser ce qui est indiqué sur ce journal. La collection des opéras et des bulles, histoire d'opéra illustrée, est proposée par l'Opéra de Lyon en partenariat avec l'école de dessin, l'école Émile Cole, l'Université catholique de Lyon, Lettres modernes, et leurs étudiants, avec le soutien, certes, bien entendu, du petit bulletin. Il y a quelques phrases qui se trouvent un peu par-ci, par-là, à différents endroits. Je pourrais en lire si ça peut donner une idée de ce qu'est cet ange de feu. C'est une jeune femme étrange, belle blonde aux airs candides. Pourtant, sous ses beaux yeux, le diable se cacherait-il ? Seule dans une auberge, au fond d'un bois, abandonnée du monde, Renata cherche son compagnon, Madiel. Il lui a fait une promesse, mais où est-il à présent ? Renata cherche, s'impatiente, mais rien n'y fait. Il est parti, en lui laissant pour unique compagnie une bande de démons tristes qui agitent ses nuits. L'Ange de Feu, un opéra qui commence pas tout de suite, c'est mardi prochain, le 11 octobre, donné jusqu'au 23. L'opéra de Lyon avec les chœurs, l'orchestre de l'opéra sera dirigé par Kazushi Ono pour sa dernière saison à Lyon. De la musique, il en reste encore, parlons de ça, et puis je crois que j'arrive au terme des annonces que je pouvais faire. Parlons de il est arrivé le deuxième volume de la rentrée 2016 des Inrecuptibles. Après un début d'émission quand même bien classique, écoutons d'ailleurs le titre qui ouvre cette compilation dans le numéro de ce jour. C'est le numéro est-ce que ça apparaît quelque part ? C'est le numéro du non, je l'ai pas la date. Bon, ce n'est pas très grave. Un numéro en couverture duquel se trouve le groupe Justice. Et c'est ce que nous allons écouter. Écoutons le titre Randy, extrait de l'album Woman. Vous allez voir, ça déménage un peu. C'est quand même bien moins classique que la 5e de Beethoven ou bien la troisième variation des variations Goldberg de Bach. Donc écoutons Randy de Justice et puis continuons même. Je crois qu'on va arriver au terme de cette émission. Ah non, la pour le coup, ce n'est toujours pas bon. Le Justice, le voici. Vous allez voir. ça s'est terminé. Dis, Gérald, t'étais bien là? Allô, Gérald? Ah, il a raccroché. C'est pas vrai. On avait Gérald à l'antenne, les amis. C'est stupéfiant. Non, non, Gérald. Ah si, allô, Gérald? Gérald, est-ce que t'es là? Gérald? Ah, Gérald, t'es là? Non. Oh là là, oh là, y a plus rien qui marche. Bon, bah, c'est dommage. Il est parti. Il était là par téléphone. C'est stupéfiant. Et, il est pas présent aujourd'hui, mais je crois qu'il sera là la prochaine fois. Zut, t'as dû raccrocher, hein, c'est ça. Mais bon, tu es bien à l'écoute. C'est une excellente chose. Je termine. 52. Je fais ce que j'ai annoncé. Tout d'abord, j'indique ce que nous écoutions. Il s'agissait du titre Roundy de Justice. Dans sa démesure, Woman, c'est le nom de l'album, c'est aussi se faire funky comme sur ce Roundy Lubric qui laisse imaginer ce qu'aurait donné la rencontre entre Justice et Michael Jackson. C'est ce qu'en disent les Inrecuptibles dans ce numéro du 5 octobre, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai pas le numéro même sous les yeux, c'est pas très très important. Si j'ai le numéro, c'est toujours très très bien d'être précis. C'est le numéro 1088 des Inrecuptibles, est sorti ce matin, et donc ce titre Justice. Il y a d'autres choses qu'on pourrait écouter également, mais non. On va en rester là pour aujourd'hui. J'ai également cette petite correction à faire. Ce n'est pas du tout Benedict Matthews, mais c'est Benedict Andrews, qui est le metteur en scène de L'Ange de Feu, un opéra qui commence mardi 11 octobre prochain à 20h, jusqu'au dimanche 23 à 16h, à 16h le dimanche et à 20h en semaine. C'est donné tous les 2-3 jours, plus ou moins. Voilà. Peut-être que Gérald appelait pour demander des places pour cet opéra. Il les aura. Moi, je ne pense pas m'y rendre. Je crois avoir tout dit. Non, il y a une dernière chose à indiquer. Le festival Lumière va commencer. Il commence ce samedi 8 octobre et il est possible que mercredi prochain, l'invité que nous aurons, il est possible que cet invité soit une personne de l'Institut Lumière qui vienne nous parler de cette 8e édition, je crois, de ce festival Lumière du 8 samedi prochain au 16 dimanche de la semaine suivante octobre. Le prix sera remis à Catherine Deneuve, le prix Lumière. Il sera remis le vendredi, ce sera le 14, je crois, 14 octobre. Différentes choses à venir dans ce festival, des films bien entendu, des rencontres avec différentes personnes. Par exemple, j'ai sous la main un hommage qui sera rendu aux amis de Jim Harrison, né en 1937 et décédé en 2016. Cet hommage sera rendu le mardi 11 octobre à 19h à l'Institut Lumière. La séance hommage sera animée par Thierry Frémaux. Ce sera en présence de l'écrivain américain Peter Lewis, du critique animateur et producteur François Bunel pour la Grande Librairie sur France 5, et puis il y aura aussi l'éditeur Dominique Bourgois et puis le traducteur aussi Brice Mathieu-San. Ce sera pour le livre Jim Harrison, ce livre de Jim Harrison, Le Vieux Saltimbanque. Il y aura aussi un film projeté, Jim Harrison entre chien et loup. Ce seront des extraits notamment. Enfin voilà, non, ce sera peut-être projeté en entier. Je ne sais pas. Écoutez, je vous renvoie au site et puis je vous renvoie à tout un ensemble de brochures, de flyers qui ont été établis. L'Inhumaine, par exemple, aussi une autre manifestation dans ce festival. C'est un ciné-concert qui aura lieu à l'Auditorium de Lyon, forcément le dimanche 16 octobre à 10h30. C'est un film de Marcel L'Herbier qui date, attendez, c'est quelle année ça? 1925. Non, je me trompe, je lis Questionnant la vie, la mort, l'amour, l'art, la résurrection par la technologie. L'œuvre de L'Herbier préfigure ce que sera la grande exposition des arts décoratifs de 1925. Il s'entoure d'artistes de l'avant-garde des années 1920. Il date de quand ce film? J'arrive pas à trouver. Je suppose que c'est assez ancien. C'est une féerie, un poème à l'écran accompagné à l'orgue en live. C'est ce qu'en dit ce petit flyer que j'ai. Voilà, beaucoup de choses seront données. Il y a aussi une nuit des potes, je crois, il me semble, avec différents films programmés. Enfin voilà, et puis une exposition photographique d'Agnès Varda, mais ça c'est un peu plus tard. Non, ça a lieu en même temps à l'Institut Lumière, l'Institut Lumière Presqu'île, c'est-à-dire la galerie photo cinéma qui n'est pas très loin d'ici, au 3 de la rue de l'Arbre Sec. Voilà, tout un tas de choses. Promis, nous en reparlerons sur le blog éventuellement, et puis nous en reparlerons aussi peut-être mercredi prochain. Je termine puisque en début d'émission, voilà, comme ça la boucle sera bouclée, puisqu'en début d'émission nous recevions par téléphone Jean-Pierre Siméon. Bien sachez qu'il sera présent à différentes reprises pour des soirées poétiques qu'il animera et qui seront ponctuées de lectures par les comédiens de la Maison des comédiens du TNP. Il y a un premier rendez-vous le mercredi 12 octobre prochain, la semaine prochaine à 20h30, c'est Zeno Bianou qui sera reçu, un poète, essayiste et traducteur, ainsi que dramaturge, auteur aussi de nombreuses anthologies. Le jeudi 3 novembre à 20h30 toujours, ce sera Serge Pey. Et le jeudi 6 avril, c'est un peu plus tard, à 20h30 également, Vénus Kourigata, une poète romancière et traductrice d'origine libanaise. Voilà, les renseignements sont à trouver sur le TNP, le site du TNP, tnp-villeurbanne.com, et l'entrée de ces soirées est libre. Je pense qu'on a tout dit. Est-il temps d'écouter le générique de fin d'émission? Oui, il est bien temps. Alors qu'il n'est que 14h56, voilà. Et puis, et alors que aussi le blues des canuts n'a pourtant pas lieu. Eh bien, restons-en là. Solo micro, c'est pas une bonne expérience. Hein. Gérald, si tu m'écoutes bien, il faut que tu sois là mercredi prochain. Tu te débrouilles, tu es bien là. Isa, si j'ai accepté que tu ne viennes pas aujourd'hui, il faudra que tu sois là la semaine prochaine. Il me semble que ces deux comparses que j'ai étaient quelque peu malades. Voilà, soignez-vous les gars. Revenez bien la semaine prochaine pour que je ne sois pas seul à me livrer à tout un tas d'élucubrations qui peuvent être pénibles pour l'auditeur. Regardez, auditeur, constatez, je m'arrête à 57. Restez à l'écoute tout de même des programmes de Radio Canu. Bah, pour l'instant, les bandes continuent. À 16h, c'est possible qu'il y ait bien les sons bâtards. Il y aura aussi à 17h, on n'arrête pas le prog. Et puis 18h, l'équipe du Méga Combi, ils sont en train de bosser. Ça va être encore une émission géniale, comme toujours. Et à 19h, le Canu Info. Voilà, j'ai à peu près tout indiqué. Le reste, eh bien, écoutez, soyez surpris, puis vous verrez bien, vous entendrez bien ce qu'il y a. En attendant, eh bien, passez une bonne semaine, une bonne journée aussi, et puis à très bientôt sur le blog notamment. Ciao tout le monde, bye.